Bonjour à tous. Vous allez bien ? Oh, c'est timide. C'est le printemps et le soleil brille. C'est agréable, non ? De sortir de l'hiver. Alors, mon titre ce matin, c'est « Dépouillé et revêtu ». Je ne sais pas ce que ça exprime pour vous. Ça exprime quelque chose ? C'est positif, c'est négatif ? C'est positif, alors c'est bien. Mais je dois dire que dépouillé, c'est pas forcément positif, quoi. Et on a notre vieille chair qui se réveille et qui dit « Ah non, c'est pas agréable ce truc-là. Tourne la page, c'est pas agréable. Passe à autre chose. » Mais dépouillé, c'est dans le bon sens où le Seigneur veut enlever quelque chose pour mettre ce qui est de sa nature, ce qui est de lui-même. Et dans ce sens-là, c'est beaucoup plus positif et c'est de marcher dans ce que le Seigneur nous a promis, nous a, pour chacun d'entre nous, qu'il l'avons accepté. Alors ce passage, on le retrouve dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, c'est bon ? Vous pouvez prendre votre Bible. Bon, c'est pour les plus près, vous pouvez lire. Ou ceux qui ont des bons yeux. C'est un exercice. Éphésiens 4, du verset 17 au verset 32. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et à l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. Il y a un résumé là. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Être et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Tout est dit, là. Hein ? Et c'est vrai que cette parole qui nous est donné, ce trésor que nous avons apporté de nous, c'est vraiment un trésor pour nous enseigner. Et cette parole, quand vous la lisez, quand vous prenez le temps de prier, de lire ces mots, vraiment, elle produit la vie en vous. Et je vous assure, se dépouiller devient beaucoup plus facile, parce qu'on a envie de bien mieux que ça. On a envie de se revêtir de ce que Dieu a prévu pour nous. Je reprends trois versets dans Parole vivante pour mieux peut-être traduire ces choses de façon plus compréhensible peut-être. Donc verset 22, « Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre vous dépouiller de votre vieux moi d'avant votre conversion. C'est là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et toute votre attitude mentale et spirituelle changée. Habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Cette vie se manifestera par la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est encore plus clair. Et nous avons différents exemples qui peuvent nous parler de ça. Se dépouiller, se revêtir, moi ça me parle de la mort à soi-même et de vivre pour Christ, vivre selon Christ. Et il nous est parlé du grain de blé, tombé en terre, que s'il ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Et j'aurais pu vous passer cette image-là, mais j'ai choisi plutôt le règne animal, donc la chenille, qui devient quoi ? Papillon. Donc, Givorg, si tu veux nous passer la vidéo. Donc, c'est en version accélérée. Donc, vous voyez bien ce que c'est qu'une chenille. Il y a eu au moins une nuit à se passer. Hein. Mais je n'ai pas voulu vous garder toute la nuit. Voilà. Et je trouve que c'est un bon exemple d'une nature dépouillée, d'une transformation intérieure qui produit un nouvel être. Et c'est vraiment tout le sens de l'Évangile. Ce que Christ a mis dans nos cœurs, le Saint-Esprit travaille jour après jour pour que nous devenions, selon la nature de Dieu, une personne à sa gloire. Et on a besoin des images quelquefois, parce qu'on dit qu'une image parle je ne sais combien de plus que des mots. Donc, c'est pour ça que je voulais illustrer ça. Mais si vous regardez un germe de blé, comment ça se passe, il y a un phénomène aussi. Ça ne peut pas se reproduire de façon artificielle. C'est vraiment la main de Dieu dans la création qui crée ces choses-là, quoi. Il y a des phénomènes qui sont impossibles à créer par les hommes. Et Robert me parlait de pépins de pommes. Donc, je ne veux pas dire que Robert a des pépins, mais il a des pépins de pommes qu'il a mis dans le frigidaire pendant 2 mois pour subir une hibernation, pour simuler un hiver. Et à la suite de l'hiver, les pépins germent et peuvent commencer à donner un nouvel arbre. Et toutes ces phases, on voit... Nous sortons de l'hiver, nous allons rentrer dans le printemps avec des arbres qui s'habillent, de feuilles, puis de fleurs, etc. Donc vous voyez la nature se réveiller, se revêtir. Et à nouveau, vous allez voir les feuilles à l'automne commencer à jaunir, puis à tomber, et l'hiver va s'installer. Et la nature va se dépouiller. Et il y a des cycles comme ça, et je trouve que la nature nous parle beaucoup de notre vie et surtout de ce que Dieu a créé. Et ça nous inspire pour le vivre nous-mêmes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le dépouillement, ça fait peur. Je vous ai dit qu'au début de ma conversion, quand j'avais entendu quelqu'un qui disait « Brise-moi, Seigneur », moi, j'avais dit « Je ne peux pas, Seigneur ». Et donc, tout dépend de ce qu'on vit au moment où on rencontre le Seigneur. Et donc c'est pour cela que, mes bien-aimés, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, le Seigneur vous a appelé, vous a touché, il a son plan personnel pour vous. Pour certains, ils vont être peut-être brisés tout de suite. Ils vont peut-être être dépouillés tout de suite. Ils vont grandir très rapidement. Et pour d'autres, ça va prendre le temps. Ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur vous aime personnellement et a un plan personnel pour vous. Arrêtez de regarder à droite et à gauche. Ce plan, il est personnel. Vous le croyez ? Et donc, attendez-vous avec patience. Mais le Seigneur est encore plus patient que nous. Moi, ça m'émerveille, sa patience, parce qu'il y a longtemps que j'aurais tapé du pied. Mais il est patient avec nous. Mais en tout cas, il veut nous conduire dans ce plan personnel qu'il a pour nous. Et ce n'est pas seulement un dépouillement qu'il a prévu, mais derrière, de revêtir. Et le travail n'est pas fait à moitié, comme nous, les hommes, on pourrait le faire en laissant le travail à moitié fait, un chantier à moitié terminé. Et il a permis de nous couvrir. Dans le psaume 91, il est dit « Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Voilà. L'épreuve nous met à nu et nous sommes brisés quelquefois. C'est des paroles que j'ai dit moi-même, que j'ai entendues. Je suis brisé, je suis dépouillé. Et j'entends ces paroles et en même temps, je dis « Seigneur, eh bien, que ce soit de ton dépouillement, que ce soit de le vieil homme que tu commences à dévêtir parce que tu veux l'équiper tel que tu as prévu. » Et je pense à trois énormes serviteurs de Dieu, Pierre, Paul et Jacques, qui chacun d'entre eux, avant d'être des personnes inspirées qui ont donné des paroles qui sont éternelles, qu'on retrouve dans la Bible, chacun d'entre eux, tous les trois, ont été dépouillés. Et même Jacques, qui était, donc on retrouve donc dans une épître, qui était le frère de Jésus, qui a vécu, alors peut-être, je ne sais pas quelle différence d'âge il avait avec Jésus, mais sûrement 25 ans aux côtés de Jésus, eh bien, il a eu du mal à croire que Jésus était le Messie, l'envoyé de Dieu. Il a dû rompre avec tout ça, il a dû se dépouiller de ce qu'il savait. Paul a dû se dépouiller de ce qu'il savait, de sa grande connaissance, de ce qu'il avait appris et de sa grande religion qu'il croyait parfaite. Voilà, on a besoin de se dépouiller de notre vieille chair, de notre vieille chair qui veut toujours avoir raison. Alors ça, c'est typique, ça. Si vous dites, là, je suis en train de vouloir avoir raison, je veux avoir raison, je veux avoir raison, il y a un truc qui ne colle pas. Ça, c'est certain. De toujours avoir raison, je crois que ce n'est pas possible. Vous pouvez avoir raison, quelquefois, toujours, je ne crois pas que ce soit possible. Et donc, ce principe de dépouillement, il va nous suivre toute notre vie. Parce que Dieu nous aime infiniment, infiniment et jusqu'au bout. Et il veut traiter toutes les racines, jusqu'à la plus petite qui pourrait encore produire quelque chose de mauvais. Vous allez me dire, c'est de l'acharnement. C'est pas de l'amour, ça, c'est de l'acharnement, ça fait mal. Alors le problème, c'est que notre société a un peu de difficulté avec la douleur, avec la souffrance, parce que c'est moins connu. Mais Jésus n'a-t-il pas souffert, le Fils de Dieu ? Et donc forcément, il y a une souffrance dans laquelle on ne va pas aller volontairement. On n'aime pas ça. Mais dans certains pays, c'est encore beaucoup plus commun que ça. Malheureusement et heureusement. Mais quand je pense aux frères et sœurs qui, sur la terre, sont persécutés dans des conditions donc autres que le confort qu'on a ici, le Seigneur n'est-il pas le même à Rennes qu'il est à Bagdad, qu'il est en Syrie, qu'il est en Corée du Nord? C'est le même. Et sa fidélité est la même. Et il y a une souffrance différente en Corée qu'en France. Et on a un petit peu de mal avec ça quand même. Et donc Le dépouillement, c'est une humilité. C'est de vouloir, c'est d'accepter avec humilité que, ben oui, on n'a pas toujours raison. Puis là, on a besoin que le Seigneur nous enlève nos vieilles casseroles et qu'on puisse marcher en nouveauté de vie. Et il y a un bel avenir pour chacun d'entre nous, ça c'est certain. Et ce bel avenir, quelquefois, on dit dans des encouragements, tu as un bel avenir devant toi. Puis tout de suite, ça nous regonfle. Et puis d'un coup, ça c'est pas forcément spirituel, c'est un coup d'orgueil qu'on peut prendre. Et donc le ballon de baudruche, il gonfle encore un petit peu et on a besoin de l'aiguille des gens qui sont à côté de nous pour dégonfler un peu le ballon de baudruche. Et je pense à l'orgueil, je crois qu'on aura à lutter toute notre vie avec ça. Et ça, Seigneur, dépouille-moi de cet orgueil. Voilà, donc ensuite, nous savons qu'il s'est produit un changement d'identité, que nous avions perdu notre identité. Et nous avons retrouvé une identité. Cette identité, elle a été perdue au moment de la chute. Et au moment de la chute, quand le péché s'est introduit dans le cœur d'Adam et d'Ève et dans la nature humaine, est venu nous couper de Dieu, est venu nous couper de l'identité première qu'on avait. Et notre recherche d'identité, c'est notre recherche d'être réconcilié avec Dieu. Nous avons chanté tout à l'heure que Dieu est celui qui est, qui était et qui sera. C'est un Dieu d'éternité, c'est un Dieu pour toujours, c'est un Dieu qui est permanent. Et en fait, nous, on n'a plus cette notion-là. Et on a besoin de recoller à cette identité de Dieu. Donc l'ancienne identité, nous étions des pécheurs séparés de Dieu, une identité de rebelle envers Dieu. Éphésiens 2:1 nous dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Et Éphésiens 4:17 « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Donc, mais qui a ouvert nos yeux à ce sujet-là? Ces mots que nous ne comprenions pas, qui étaient même des mots de révolte. D'entendre que nous sommes des révoltés, ça peut encore nous révolter plus si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vient toucher notre cœur et qui vient dire « Mais oui, c'est bien de toi dont on parle. » Donc c'est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui a ouvert nos yeux. C'est une grâce merveilleuse. Et ce n'est pas par ma volonté, c'est par la volonté de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Et bien sûr, là, on a une image du monde qui est tout autour de nous et qu'on pourrait juger. Mais il ne nous appartient pas de le juger. Il nous appartient d'avoir la compassion de ces personnes qui sont autour de nous et de dire, ils sont aveuglés. Seigneur, viens à leur secours. Viens au secours de mes voisins, Seigneur. Viens au secours de mes collègues de travail. Bien sûr, il y a des paroles, il y a des attitudes qui me blessent, qui me font mal. Mais Seigneur, viens à leur secours, s'il te plaît. Viens à leur secours. C'est toi qui as ouvert mes yeux. Si tu as ouvert les yeux d'un rebelle comme moi, tu peux aussi leur ouvrir les yeux. Amen. Et donc, depuis le premier péché d'Adam et Ève, et donc ce péché qui, je vous ai dit, qui a brisé l'intimité qu'Adam et Ève avaient avec Dieu. Cette intimité, on l'entend dans le livre de la Genèse, Dieu était avec eux. Et à un moment donné, donc après le péché, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont péché, puis d'un coup, ils se sont sentis nus. Ils sont partis se cacher. Ils sont partis se cacher. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on peut faire quelquefois? Se cacher de la face de Dieu. Alors que Dieu nous veut. Dieu nous désire. Dieu désire cette intimité. Mais cette attitude d'être, de fuir, cette attitude de vouloir aller ailleurs que de rencontrer Dieu, c'est aussi une trace qu'il y a quelque chose encore à dépouiller. Peut-être quelque chose de religieux, peut-être quelque chose de rébellion encore dans notre cœur, en disant « mais je ne peux pas être face à Dieu, alors je vais fuir ». C'est ce qu'ont fait Adam et Ève. Et ça peut durer un certain temps. Mais le rendez-vous avec Dieu, c'est vraiment ce qui nous guérit profondément. Ce face-à-face avec Dieu, c'est vraiment ce qui nous guérit. Alors c'est bien sûr à l'occasion de réunions d'église comme ça où on peut le vivre, mais c'est aussi tout seul dans notre chambre. Dans l'intimité, ce face-à-face avec le Seigneur. Je prie vraiment que vous ayez ces face-à-face avec le Seigneur pour qu'il puisse dépouiller, certes, certainement, il y a des choses à dépouiller, mais qu'il puisse vous équiper et rentrer dans cette identité qu'il a prévue pour vous. Donc la nouvelle identité, il nous en est parlé dans Colossiens 2, du verset 8 à 14. Faites attention que personne, donc verset 8, ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous étiez mort en raison de vos fautes et de la circoncision de vos corps. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ce qui s'est passé à la croix. C'est ce qui s'est passé pour le profit, pour le bénéfice de chaque homme, de chaque femme qui viennent sur cette terre. Notre identité a été clouée à la croix, notre vieille identité. Elle a été clouée à la croix. C'est plus à faire, c'est fait. Est-ce que vous me croyez? Par contre, le plus dur, c'est de le vivre. Hein, yes. Vous étiez mort en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos corps. Il vous a rendu à la vie avec lui. Donc il s'est passé quelque chose là. Nous sommes revenus à la vie. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. C'est le tout accompli de Dieu, le tout accompli que Christ, les dernières paroles de Christ sur la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, ton péché, mon péché, le péché de l'humanité a été cloué à la croix. La condamnation due au péché a été clouée à la croix pour tous ceux qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette nouvelle identité, on la reçoit quand on donne notre vie au Seigneur. Alors vous allez me dire, mais j'ai rien senti, Mais je ne le sens pas, ton truc, là. Ben ouais, ça ne se perçoit pas par nos cinq sens, mais c'est par la foi. Et la foi, elle n'a jamais été perçue par nos cinq sens. La foi, c'est ce que Dieu met dans nos cœurs. Et donc, ne recherchez pas des sensations, recherchez la foi. Recherchez la foi. Recherchez ce que Dieu veut pour vous, veut implanter, veut écrire dans vos cœurs. Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Votre vie est cachée en Christ en Dieu. Alors ce terme-là, il a plusieurs significations, ce terme caché. Et le premier, c'est caché, c'est partage ou communion spirituelle avec Dieu. Il y a quelque chose de caché, ce n'est pas écrit sur notre front, mais c'est écrit dans notre cœur. Et c'est ce que nous vivons aussi, qu'il y a une communion. Communion, c'est comme une union, une unité retrouvée, c'est la réconciliation avec Dieu. Le deuxième sens, c'est l'incompréhension pour un non-chrétien de cette nouvelle vie. C'est-à-dire que, effectivement, c'est caché. On ne sait pas ce qui s'est passé. On peut vous dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais t'as vu qui, quoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, là ? C'est incompréhensible pour un non-chrétien. Et c'est comme un langage crypté, un langage caché. Et ce langage caché, en fait, c'est le Saint-Esprit qui vient le décrypter. Les langages cachés sont, ça a été utilisé durant la dernière guerre mondiale, autant par les uns que par les autres, pour envoyer des messages. Et comme on savait qu'il y avait des écoutes, vous rappelez forcément, enfin, on est trop jeune pour avoir vécu ça. Je regarde la santé. Oui, on est tous trop jeunes. Mais vous avez vu des films où Radio Londres, où il y a des messages codés, quoi, où c'est des poèmes qui sont dits, bon, par exemple, pour le débarquement. Mais ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire « ça arrive, le débarquement arrive, préparez-vous ». Ou alors c'était des messages vraiment spécifiques pour des parachutistes qui allaient descendre dans un endroit très précis, ou une livraison d'armes ou autre chose. Et ce langage-là, il était crypté. Donc ce langage-là, il était invisible pour ceux qui n'étaient pas des alliés. Et donc, le langage invisible de la parole de Dieu, on va dire, pour un non-chrétien, c'est crypté. Il a besoin du Saint-Esprit pour le comprendre. Et quand on est de nouveau, quand on appartient au Seigneur, le Seigneur vient décrypter toutes ces choses, quoi. Et donc, c'est comme j'étais aveugle et maintenant je vois, c'est l'histoire de la guérison de l'aveugle, mais nous étions aveugles et maintenant nous pouvons dire que nous voyons. Et le dernier donc, le sens de ce mot, de ce verbe caché, c'est sécurité, protection et bénédiction. Donc là, ça prend un sens nouveau de ce que nous sommes maintenant en Christ. Et donc, il y a deux phases distinctes, c'est se dépouiller, se revêtir. Et on ne peut pas faire les deux à la fois. Enfin, les enfants, vous avez dû essayer de le faire quand vous étiez enfant, enlever d'un côté et puis mettre de l'autre, mais bon, ça ne marche pas, quoi. On finit vite par comprendre que se dépouiller, se revêtir, c'est l'un ou l'autre, mais ce n'est pas tout en même temps. Et ces deux faces, c'est aussi pour bien comprendre ce qui se passe, quoi. Le Seigneur est vraiment un enseignant, un éducateur pour nous. Il ne veut pas que nous soyons comme des robots. Il veut nous enseigner, nous faire comprendre les choses, quoi. Et ces deux phases, c'est vraiment pour bien les vivre et comprendre ce qui se passe. Et le dépouillement se fait très souvent dans l'intimité. Se déshabiller, ça se fait dans l'intimité. Et puis, il y a d'autres mots qui sont venus. Et donc, il y a quitter un linge sale pour mettre du linge propre. D'où l'intérêt de l'hygiène. Et l'hygiène, on comprend bien, l'hygiène physique. Et l'hygiène spirituelle, c'est aussi ça. Se dépouiller de quelque chose de sale pour prendre quelque chose de propre. Et il y a aussi la mauvaise odeur et le parfum. Un linge qui a pris une mauvaise odeur et on préfère revêtir un linge qui a un doux parfum, qui donne un parfum là spirituel, qui témoigne de Christ. Un vêtement usé, un costume neuf, on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est abandonner une tenue qui est percée, qui est déchirée pour un costume neuf. Un vêtement de deuil pour un vêtement de louange. Tony nous en avait parlé il y a 15 jours. Un vêtement de deuil pour un vêtement de louange. Un cœur triste pour un cœur rempli de joie. Un vêtement de honte pour un vêtement de dignité. Notre péché nous rendait honteux. Et le Seigneur nous a donné une nouvelle dignité. Alors, de quoi je me dépouille ? Vous avez compris que c'est bien plus que des habits qu'on a, comme se dépouiller d'une vieille veste, d'un vieux blouson qu'on va laisser de côté ou envoyer à la braderie. Donc c'est bien plus profond que ça. Et il m'est revenu l'histoire, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous la raconter, c'était un Indien, donc d'Amérique, qui se convertissait. Et lui, il avait dit, je te donne tout, Seigneur, et comme nous. Non, vous n'avez pas dit ça ? Je te donne tout, Seigneur. Et il a fait comme nous. Et il dit, Seigneur, je te donne tout. Donc il a amené des choses auxquelles il tenait. Donc il a amené ses armes, il a amené de la nourriture, il a amené plein de choses. Et puis le Seigneur lui dit, non, c'est pas suffisant. Bon, eh bien, Seigneur, je te donne mon cheval. Donc, il lui a amené son cheval en plus. Le Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas suffisant encore. Et là, il a compris. Et là, il est venu et il dit, eh bien, je me donne tout entier. Indien se donne à Dieu. Amen. Amen. Donc, petit breton se donne à Dieu. Amen. Et tout entier. Donc, c'est pas, le Seigneur ne veut pas de l'accessoire. Il nous veut tout entier, du sol au plafond, de mes cheveux jusqu'à la pointe de mes pieds, tout entier. Que tout entier nous respirions, nous louions l'Éternel. Et donc la vie, de quoi se dépouiller, c'est la vieille nature qui se corrompt par la convoitise, par les convoitises trompeuses. Convoitises trompeuses, là il y a du bazar, hein. Convoitise. La convoitise, c'est désirer en permanence, jamais satisfait. Jamais satisfait. Toujours dans la convoitise. Et convoitise trompeuse, ben vous comprenez très rapidement que le lendemain, sur lendemain, que vous avez acheté une tenue, ah ben si, ça va encore, elle n'est pas trop froissée. Vous avez acheté une nouvelle voiture, par exemple, ah ben elle est bien. Mais bon, assez rapidement, enfin surtout quand vous avez payé la première traite, vous allez dire, ah, elle est moins belle, ma voiture. On sait que là, elle nous a coûté. Et donc, il y a cette convoitise trompeuse, vous la voyez, vous n'êtes jamais satisfait. Et ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle. C'est pourquoi rejeter le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. La vérité. C'est vraiment au cœur du sujet. Car nous sommes membres les uns des autres. Et donc cette peur d'être démasqué comme Adam et Ève et démontre la peur de la vérité. Et cette vérité, ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité que Dieu nous révèle. C'est une vérité selon Dieu, une vérité inspirée par Dieu. Et vous savez quand Dieu vous parle que c'est la vérité. Alors quelquefois on tourne un petit peu en rond, mais vous savez que c'est la vérité. Et donc derrière, donc dans Éphésiens 4, il est parlé d'autre chose. Donc je vous laisserai reprendre ça et méditer sur le sujet, ça peut vous interpeller sur certaines choses. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Et la colère, ouais, ça déborde. Ça déborde. Donc on n'a plus le contrôle de nous-mêmes, quelquefois. Et ce manque de maîtrise est qui permet au diable d'y aller. Et là, quand la digue a été cassée, a été brisée, comme nous est dit dans les Proverbes, toute l'eau s'écoule et va noyer la vallée. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe avec une colère qui n'est pas maîtrisée. Je ne vous dis pas de tout accepter. Il y a des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes. Et vous avez le droit de dire, non, ça, ce n'est pas juste. Par contre, de sortir de vos gonds et de partir dans quelque chose qui n'est plus maîtrisé, ça, par contre, le Seigneur vous demande de demander la maîtrise de soi, un fruit de l'esprit. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vraiment, celui qui passe du vol au travail, un travail honnête, quel témoignage et quelle bénédiction. Parce qu'il est dit que c'est même pas que pour lui qu'il travaille. Il travaille pour donner à celui qui n'a pas. Qu'il sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et là, sur les paroles, il y a tellement, tellement de choses à dire. Ça, c'est vraiment aussi, quand on lit l'épître de Jacques, et je pense que vous en avez fait tous l'expérience, que notre parole, que nos mots, ils ont quelquefois des portées qu'on dépasse. Et sur la parole, la maîtrise de notre langue, nous avons à apprendre. Dans Luc 6, 45, donc ça, le Seigneur nous disait, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Et donc forcément, la parole, elle traduit quelque chose qui est à l'intérieur. Et c'est bien à l'intérieur qu'on a besoin d'être dépouillé. C'est pas de mettre un scotch sur la bouche, de se coudre les lèvres qui va régler le problème. C'est que nos cœurs soient changés. C'est de l'intérieur que ça vient. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, le Saint-Esprit, le parfait conseiller, le parfait consolateur. Comment l'attrister? Celui qui est tous les jours à nos côtés, comment l'attrister? Eh bien, comment on peut attrister un ami? Comment on peut attrister quelqu'un qui est proche de nous, un intime? On lui ferme notre cœur, on ne l'écoute plus. Et on ne fait plus attention à lui, puis voire on l'oublie. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, il va fermer son oreille aussi si vous avez un comportement qui est de ne pas l'écouter, c'est de l'ignorer. Mais si au contraire, vous écoutez le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous guider. Il est le conseiller vraiment parfait, parfait, parfait. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Et donc là, je reprenais sur ce passage d'Éphésiens 4, dans le psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Nous avons besoin de ça, et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer sur la parole de Dieu. Et on a une nécessité, c'est que nos vies, elles passent au crible, au tamis de Dieu. au tamis de la parole, au tamis du Saint-Esprit. Et Christ n'est pas venu seulement pour faire une réparation. Ce n'est pas une simple réparation, ou plusieurs réparations, ou plusieurs plâtres qu'il va mettre sur un corps. Il n'est pas venu réparer. Le Seigneur Jésus est venu donc pour nous donner un vêtement neuf. L'habit ancien, de le quitter pour un vêtement neuf. 1 Pierre 2,24, lui qui a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, de la tête aux pieds, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le tout accompli de la croix. L'œuvre de la croix n'est pas pour restaurer notre chair. Et l'exemple que j'avais sous mes yeux, c'était la restauration d'un milieu naturel. On peut penser à ces, nous qui vivons pas loin de la mer, de ces milieux qui sont protégés. Et sur un milieu naturel, donc vous voyez des petites pancartes, et on a mis une palissade pour vous empêcher d'aller piétiner ce lieu. Donc on commence par stopper les dégâts. Donc on protège pour que la vie première des plantes puisse reprendre naturellement son milieu, vivre de son milieu vital. Et tout le piétinement faisait qu'en fait, on venait nuire à la vie de ces plantes. Et ce milieu vital, pour nous, c'est, on dit, comme un poisson dans l'eau. Et pour un homme, c'est d'être relié à Christ, c'est d'être relié à Dieu. L'homme a été créé pour cette communion avec Dieu. Et c'est toujours l'œuvre de la croix qui nous l'offre. Luc 5,36, il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit. Sinon, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti avec le vieux. Vous connaissez cette parabole. À la conversion, nous recevons un habit tout neuf. Parfaitement taillé, donc là c'est du sur-mesure, il est taillé pour nous. Un habit de paix parfaite, de justice parfaite, de joie parfaite, et notre esprit est comblé par l'Esprit de Dieu. Mais le problème c'est notre âme. Notre âme, c'est notre chair encore. Et notre âme, elle a des revendications, et qui souffre de son passé, et qui réclame des choses. Et qui a aussi des mauvaises habitudes. On a parlé de la colère, de se laisser emporter par ça, de râler, de convoiter. Enfin bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, vous en savez autant que moi. Et on peut faire des mélanges douteux dans cette affaire. On a dit que toute notre vie passée avait été prise au moment de la crucifixion de Christ, au moment de sa mort. Tout a été pris sur la croix. Et c'est quelquefois dans notre douleur d'avoir cette âme qui réclame et aussi ce corps qui réclame. C'est de faire des mélanges entre les philosophies humaines dont il nous a été parlé et ce que Dieu veut pour nous. Et de venir embrouiller le tout accompli de Dieu. Et je dois dire que ça, ce n'est pas le plus facile parce que nous vivons dans un monde, je vous ai dit, qui ne veut plus de souffrance, qui court pour être soigné. La santé, pour certains, est une religion. Et c'est ces douleurs, et bien on veut en sortir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, et vous rappeler, parce que si vous avez été piégés, vous n'êtes pas les seuls. Moi, je l'ai été aussi. On fait des mélanges avec des philosophies qui sont toutes humaines. On fait ces mélanges avec la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui veut nous dire « Mais tu as tout reçu. » Amen. Tout se passe à la croix. Et dans tous ces soins de l'âme, ce que je crois fermement, c'est qu'à chaque fois, on doit voir derrière la croix qui est derrière, l'œuvre de la croix qui est derrière, en disant, mais j'ai tout accompli pour toi. C'est fait. Prends seulement. Prends par la foi. Et effectivement, on attend quelquefois un ressenti. Seigneur, j'ai pas tout compris. Viens au secours de ma petite foi. Viens au secours de ma petite foi. Que je puisse rentrer dans la guérison que tu as prévue pour moi. Donc de quoi je me revais ? Être renouvelé par l'esprit de votre... dans votre intelligence, pardon. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Et de revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'action du Saint-Esprit qui décrypte, révélant ce qui est caché, apportant la vérité. Et il y a le passage de Jean 8, 31-32, qui dit « Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples. » Non, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et donc, notre intelligence a besoin d'être renouvelée, comme je vous le disais tout à l'heure. Romains 12, versets 1 et 2, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc l'habit que Dieu m'a donné à la conversion, l'habit que Dieu vous a donné, c'est à moi aussi de le mettre, de dire je le prends par la foi. Je le prends par la foi, Seigneur, tu as tout accompli. Mais non plus ma volonté, mais ta volonté. Mais non plus ma compréhension, mais ta compréhension, Seigneur. Et le mot dépouillement, revêtir, c'est aussi renoncement, acceptation. Oui, j'accepte, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi. J'ai terminé par, je crois que j'ai fini, j'ai terminé par un passage qui est de la vie de, là, sur la vie de Jacob où on a des choses qui ressemblent. Donc la première rencontre de Jacob avec Dieu, ça a été à Bethel, vous savez où il y avait l'échelle, cette vision de l'échelle. Et Jacob a dit, mais Dieu est ici et je ne savais pas. Et il a construit un autel. Et en fait, il a appelé ce lieu Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, maison de l'Éternel. Et Jacob est parti. Bon, il a posé quelques conditions à Dieu. Et il est parti. Il est parti et puis bon, il a fait 20 ans d'esclavage, on peut dire. Et le Seigneur lui a demandé, reviens dans le pays. Dans ton pays, dans le pays de tes pères. Et là, il est revenu, il a lutté avec Dieu. Et le lieu où il a lutté avec Dieu, c'est Péniel. Et Péniel, c'est face à Dieu. Et ce que je veux vous dire à travers ça, c'est qu'il y a une grande différence entre avoir goûté à la maison de Dieu et goûter au face-à-face avec Dieu. Et le face-à-face avec Dieu, c'est vraiment là où le Seigneur vient nous guérir. C'est vraiment là où on peut s'abandonner. Et donc dans Genèse 35, verset 1, de 1 à 3, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Donc c'est quand il revient vers son pays, vers le pays de Canaan. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous, changez de vêtements. » Donc il y a ce dépouillement là. Jacob n'était plus le même. Il avait compris qu'il fallait lâcher un certain nombre de choses. Il fallait se dépouiller d'un certain nombre de choses. Purifiez-vous. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Et là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Amen. Et la promesse et l'exemple de Jacob, il est aussi pour chacun d'entre nous. Donc je voulais vous encourager ce matin à accepter ce qui peut faire mal, peut-être à première vue, c'est-à-dire au sens charnel, de se dépouiller. Mais derrière, ça ne s'arrête pas là. Dieu n'a pas prévu de vous humilier par un dépouillement. Vous êtes d'accord avec moi ? Dieu n'a pas prévu de vous humilier. Mais Dieu a prévu de vous revêtir d'un manteau de gloire. Mais seulement, il ne mélange pas tout. Le Seigneur est pur, le Seigneur est saint. On l'a chanté plusieurs fois, le Seigneur est saint. Et c'est vrai qu'on peut retarder l'action de Dieu quelquefois avec nos mélanges. Seigneur, qu'on puisse revenir effectivement à Bethel, maison de Dieu, mais en ayant ce face-à-face avec le Seigneur. Amen. Je termine là et je vais prier et puis je parlerai de ce qui va nous attendre dans les semaines à venir. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es trois fois saint, Seigneur. Qui sommes-nous ? Tu nous as aimés, Seigneur, toi le premier. Oui, Seigneur. Tu es descendu du ciel pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Tu es descendu, Seigneur, pour que nous soyons sauvés, réconciliés avec toi, Seigneur. Et Seigneur, tu ne veux pas qu'aucun d'entre nous, nous nous perdions, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, ta fidélité. Ô Seigneur, que chacune des paroles, Seigneur, que tu as choisies pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Ouais, Seigneur, qu'elles prennent vie, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que tu relèves celui qui est tombé. Oui, Seigneur, que tu guérisses celui qui est malade, s'il te plaît, Seigneur. Que tu viennes, oui, guérir le passé de ceux qui sont dans la honte, Seigneur. Le tout accompli, Seigneur. Il est fait, Seigneur. Je te prie, Seigneur, oui, d'élargir nos cœurs, Seigneur. Je te prie, Seigneur, d'élargir nos cœurs, Seigneur, à ta venue, Seigneur. Que tu puisses rentrer pleinement, Seigneur. Rentrer pleinement, occuper toute la place de nos cœurs, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.